Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, notre invitée est Laurence Aziza, directrice artistique du festival Jazz and Klezmer. Bonsoir Laurence, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Sandrine, c'est un plaisir, j'ai presque un petit rendez-vous avec vous tous les ans.
La 23e édition du festival Jazz and Klezmer se tiendra du 8 au 23 novembre 2025 à Paris et dans 10 grandes villes de France. Laurence, 23 ans de Jazz and Klezmer, c'est une aventure qui dure et qui semble se renouveler sans cesse. Si on vous avait dit à vos débuts que le festival deviendrait l'un des grands rendez-vous du jazz et des musiques juives en France, vous y auriez cru ?
Non, les choses... non, c'était difficile d'y croire, mais le festival, je dois dire, a démarré dans un moment très propice où, qui correspondait à une époque où la musique juive se renouvelait. Il y a eu tout un courant de renouveau des musiques juives, en même temps d'ailleurs qu'un courant des renouveaux de musique balkanique, où tout ça revenait mixé, mélangé, métissé de musique plus actuelle, hip-hop, électro, etc. Et c'est à ce moment-là, c'est arrivé un peu après, la vague est arrivée en 2005 et le festival s'est créé en 2001. Mais très vite, j'ai saisi cette vague-là pour justement proposer quelque chose de plus actuel, toucher une population plus jeune avec des musiques qui, somme toute, sont assez traditionnelles. Et puis, la scène était foisonnante. Donc, à ce moment-là, on est pareil, on est le nez dans la programmation de l'édition en cours. 23 ans, ça me paraît, oui, assez dingue.
Oui. C'est devenu le festival un rendez-vous incontournable. Il fait partie pleinement du paysage culturel français, bien au-delà du seul public juif. Quels sont les ingrédients qui expliquent, selon vous, cette réussite ?
Eh bien, je dirais que c'est un festival extrêmement juif dans son essence, dans le lieu de sa naissance, qui n'est autre que le Centre d'Art et de Culture, qui est donc au Fonds Social Juif Unifié. Donc, de naissance, il est de naissance et d'essence, il est extrêmement juif, mais, et ça a été un peu mon credo et mon envie, c'est de le mettre en dialogue avec non seulement les musiques, mais avec les publics qui ne sont ni juifs, ni liés obligatoirement à la culture ou à la tradition juive. C'est comment cette culture qui a toujours parlé finalement un peu au monde entier, d'une certaine façon, peut continuer cette ouverture sur l'autre. Et c'était important pour moi, parce que je crois qu'on est aussi ce peuple, cette histoire qui traverse les territoires, qui traverse les pays, qui traverse les douleurs et des joies. Et donc, à ce titre-là, c'était important pour moi d'installer ce festival dans la sphère parisienne, qui est très cosmopolite, et petit à petit dans la sphère nationale avec les concerts en région. Il s'agissait pas de faire de la culture juive, uniquement pour une petite communauté, mais la rendre vraiment, la porter haut et fièrement, j'en sais rien, mais en tout cas, la faire entendre et connaître, oui.
Et depuis ses débuts, le festival a contribué à révéler des artistes majeurs, oui. Yaron Herman, Yom, Avishai Cohen. Et puis, peut-être que finalement, le terme de klezmer est un mot universel comme le mot de jazz aujourd'hui.
Il fallait soit rester vraiment très, très, très collé au mot jazz et au mot klezmer et ne faire que du jazz et que du klezmer. Et parfois même, on nous disait, mais ça, c'est pas très jazz and klezmer, c'est pas très jazz et klezmer en même temps. Soit ouvrir un peu les portes. C'est un peu le pari qui a été fait, d'ouvrir un peu les portes, puisque la culture juive est beaucoup plus métissée. Et en fait, ça s'est révélé avec l'avènement de la scène musicale israélienne, qui vraiment s'est mise à foisonner dans les années, à partir de 2005-2010, à être d'une richesse inouïe. Toutes les cultures ont commencé à se réexprimer une fois que l'hébreu avait fait sa route et parlait à tous. Chaque culture des grands-parents, en fait, revenait au devant de la scène. Et c'est les petits-enfants qui se réappropriaient cette culture. Et c'est cette culture-là qui a donné envie donc, de pousser les murs du jazz et du klezmer. Mais au fond, le jazz et le klezmer aussi, par essence, ont des liens très forts. Et le jazz est vraiment une langue universelle. Le klezmer est une musique qui n'a fait que traverser des territoires et qui s'est mélangée avec, avec les Balkans, avec des musiques plus orientales roumaines, avec des musiques grecques, avec des musiques turques. Et donc, oui, elles sont toutes les deux, comme vous le dites, très ouvertes et universelles.
Cette année encore, la programmation fait intervenir et dialoguer des musiciens qui viennent de tous les horizons, Syrie, Israël, États-Unis, Canada, Guadeloupe, France. On reste dans les racines et la définition de ce festival. Est-ce que vous pensez que ces musiques, à la source finalement, qui se mélangent, eh bien, au-delà peut-être d'une réflexion identitaire, eh bien, elles peuvent toucher un public le plus large possible? Comment, du particulier, on arrive à toucher l'universel en restant particulier?
Vous savez, vous avez vraiment répondu à la question. Quand on lit un livre et qu'on découvre l'histoire d'une personne, et ses douleurs, sa traversée, ses aventures, et qu'on s'identifie à cette histoire-là, est-ce que cette histoire éminemment personnelle ne touche pas tout le monde et l'universel? Un sentiment, même si on est loin de l'histoire que raconte la personne ou de l'histoire du roman, on est touché par effet miroir, parce qu'on a envie d'y croire, parce qu'on est dans l'histoire. Oui, l'histoire individuelle, je pense que c'est la plus sincère aussi. Donc l'histoire et la musique personnelle, celle qui parle à soi, celle qui vient profondément de soi, ne peut que parler aux autres dans la mesure où elle est sincère, j'allais dire pure, mais c'est pas tant le caractéristique, mais d'une grande sincérité et d'une émotion aussi. Ça part aussi beaucoup d'une émotion. C'est cette émotion qui est universelle. Mais l'émotion, avant d'être universelle, elle touche une personne unique. Et les artistes, les musiciens, les chanteurs, mais les auteurs aussi, savent écrire cette émotion, la transformer en quelque chose d'universel.
Et c'est un joli message à une époque où les sociétés sont fracturées. Mmh. Et de revenir aux racines, eh bien, c'est peut-être la voie de sortie de la crise que nous traversons. Alors justement, on a l'impression que le mot d'ordre de cette 23e édition, c'est un peu la liberté. Vous revendiquez dans l'édito sur le site la volonté de prendre la tangente, de garder l'esprit libre dans un monde où finalement tout paraît très tendu. Est-ce que c'est une forme de résistance à ce que nous traversons, ce thème cette année?
Oui, je crois que oui, absolument. C'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance à une idée forte qui est celle du dialogue entre les peuples et entre les gens. Avec ce qu'on traverse aujourd'hui, il y a forcément un repli. C'est aussi une façon, disons, de rester sensible à l'autre, on va dire, juste sensible à l'autre. Mais il y a aussi quand même, dans cette édition, donc dans ce vent de liberté, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas attraper et on continue, il y a aussi, particulièrement cette année, puisqu'on a traversé des tas de musiques plus nouvelles. On parlait de renouveau dans les années 2005. Cette année, j'ai particulièrement eu envie d'un retour aux sources, ce que vous disiez tout à l'heure. Avec plusieurs concerts d'ailleurs, il y a des anniversaires, il y a des 20 ans d'eux, il y a une soirée particulière qui s'appelle...
Alors on va en parler plus dans les détails.
Parce que c'est ça qui va répondre, ce sont les détails qui
alors
vont répondre
aux questions.
Alors ce sont
les détails justement qui font l'histoire.
Oui.
Alors juste sur le festival et sa diffusion, donc il ne s'arrête pas à Paris, vous partez sur les routes d'Angers, oui. Toulouse, Lyon, Nancy, Cannes, à Bordeaux, ça aussi c'est important pour vous de l'ouvrir à tout le territoire national.
Oui. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. C'était compliqué parce qu'il faut des moyens, et on s'est assis sur le réseau du Fonds social et les centres de différentes villes pour pouvoir construire et tisser des liens avec les villes en région, avec les communautés juives en région, et qui elles-mêmes quelque part s'ouvrent aussi au territoire dans lequel elles sont, c'est-à-dire que les artistes qui vont jouer dans les différentes villes où va s'installer Jazz & Klezmer pour ce mois de novembre, eh bien quelque part c'est aussi une façon de parler à la communauté juive de Toulouse, de Montpellier, etc., mais aussi à la commune entière et aux gens qui en font le territoire. Donc Oui, c'est une chance depuis 4-5 ans de pouvoir aussi se faire entendre en région. Et ça nous renforce, ça nous donne aussi une force à Jazz & Klezmer. On peut être relayé de plus grande manière. Le son, la musique, le message résonnent plus fort puisqu'on est aussi en région.
Alors, vous l'aviez dit, cette année, c'est une année particulière. On célèbre les 20 ans du label Jumu. Et là, on va rentrer plus en profondeur dans la programmation. Il y aura une soirée événement qui va réunir Boogie Balagan, So Cold, Mangou, Anachronic Electro Orchestra et une invitée d'exception, Yael Naïm. Mais comment vous faites pour se faire rencontrer des artistes apparemment un peu différents quand même?
Alors, j'ai un jour de 2000, je ne sais plus, 5 peut-être ou 6, rencontré dans ces locaux même. Alors, c'était peut-être pas la même adresse, mais c'était sur Radio Shalom. J'ai accueilli parce que j'ai fait un peu de radio avec Radio Shalom et j'ai accueilli un monsieur qui s'appelait Claude Zwimmer et son duettiste Bruno Naon, qui est devenu d'ailleurs un merveilleux producteur de cinéma. Tous les deux sont venus avec une compilation qui s'appelait la compilation Jumu, qui voulait dire New Jewish Music. Et dans cette compilation étaient réunis, eh bien, là c'est vraiment un petit bout d'artistes de la compilation. Il y avait Matisse Yahou, ce rappeur religieux américain. Il y avait Balkan Beatbox, les Israéliens qui ont fait le tour du monde 10 fois. Boogie Balagan, Yael Naïm qui posait sa chanson Beparis en hébreu, donc qui s'affirmait en tant que qu'israélienne et que chantant en hébreu en France. Ça faisait très longtemps qu'elle était en France. Beaucoup d'autres, So Cold, on découvrait So Cold, David Krakauer, Frank London. En fait, ils ont eu ce talent, ce label a eu ce talent de récolter comme ça énormément de musique des États-Unis, d'Israël, de France, de Canada, et de créer cette compilation qui était numéro un sur Nova. Le Nova d'avant, hein, pas le Nova d'aujourd'hui, mais le Nova d'avant, qui était diffusé sur FIP, qui était sur toutes les radios juives. Et en fait, ils ont comme ça créé vraiment pareil. C'est parce que Claude Zwimmer était un amoureux de la musique, un vrai musicien dans l'âme. Et avec Bruno Naon, ils se sont trouvés sur ce terrain-là. Ils ont créé ce label, ils ont produit cette compilation, ils ont aidé énormément. Ensuite, Bruno a plutôt pris la voie du cinéma et Claude est resté. À la base, Claude est un expert comptable. Et cet hommage, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il nous a quittés il y a un an et demi, l'an dernier, à peu près en début d'année. Et donc, ça a affecté énormément de monde et... En fait, lors des réunions autour de sa disparition, eh bien, on s'est rendu compte qu'énormément de gens, d'abord, lui devaient beaucoup de leur carrière, que ce soit des artistes, que ce soit des gens qui avaient monté des sociétés. Moi, il a changé ma vie, puisqu'en fait, quand j'ai rencontré Claude Zwimmer et ce label Jumu, j'ai changé de métier, littéralement. D'accord. Et c'est ce qui fait que je suis en face de vous aujourd'hui. Et puis, c'est les 20 ans du label. Donc, c'était vraiment l'occasion de réunir ce plateau. Alors, ça n'a pas été simple, mais ils ont tous dit oui. Ils ont tous dit oui par affection, par attachement à Claude, à cet homme qui leur a tous beaucoup, beaucoup donné. Et donc, voilà, on aura Boogie Balagan, on aura So Cold qui vient spécialement du Canada, vraiment, qui fait la traversée de l'Atlantique pour l'oncle Claude, comme il l'appelle. Yael Naïm qui a une grosse journée de travail et donc qui viendra le soir nous rejoindre parce que, pareil, Claude l'a beaucoup aidé. Et puis Anachronic Electro Orchestra qui était un des groupes que Claude avait le plus développé et beaucoup aidé aussi. Donc, voilà, cette soirée, c'était une façon de le remercier et de remettre à l'honneur cette compilation qui était vraiment incroyable. Et donc, c'est une soirée assez exceptionnelle. C'est au Café de la Danse, qui était un lieu qu'il aimait.
Le lundi 17 novembre, à partir de 20h. Alors, on a l'impression que c'est le point fort à vous écouter, mais en fait, tout est des points forts cette année. Il y a, par exemple, le concert d'Omer Avital avec l'orchestre andalou d'Ashdod. Et le cantor Moshe Lou qui promet, alors là aussi, un moment très, très intense. Mmh, et là, c'est ce que vous disiez en introduction, ce mélange de racines, jazz contemporain, nord-africain, avec la tradition liturgique. Mais bravo.
Oui. Mais, merci. Mais c'est souvent aux artistes qu'on doit... En fait, il nous faut une bonne oreille. C'est surtout ça. Omer Avital m'appelle très peu après la création de ce projet qui a eu lieu... en Israël pour le Red Sea Festival, et de festival de jazz donc, et il m'appelle en disant j'ai un truc dingue, il faut que tu écoutes, il y a 30 musiciens sur scène, et c'est l'orchestre andalou d'Israël Ashdod. Il y a deux grands orchestres andalous en Israël, l'orchestre andalou Israël de Jérusalem, dirigé par Tom Cohen, et cet orchestre-là, donc l'orchestre israélien d'Israël Ashdod, qui est plus ancien encore. Et je ne sais pas quelle fut la rencontre exactement. Ce qui est sûr, c'est que Omer Avital a composé des titres particulièrement pour eux, des titres jazz, jazz et oriental, puisque Omer Avital, le contrebassiste de jazz, hein, qui a fait 10 fois le tour du monde, qui est vraiment plébiscité sur toutes les scènes du monde et qui vit aussi à New York, a redonné une sorte de vibrato, de modernité. Et il est aussi marocain d'origine, donc il avait déjà fait un travail jazz sur ses origines marocaines. Et donc, il s'est trouvé en résonance totale avec tous ces musiciens, qui sont des musiciens classiques, plutôt. C'est juste une merveille, ce projet. J'ai eu la chance de le voir cet été, alors que je l'avais déjà programmé, mais de le voir au musée d'histoire, au musée de Tel Aviv, pardon, musée d'art de Tel Aviv, et c'était un moment grandiose. Il y a plus de 35 musiciens sur scène, Omer Avital comme chef d'orchestre, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a de grands musiciens, il y aura Itamar Borokhov, qui est un trompettiste de jazz. Pareil, c'est toute la foisonnante scène israélienne de jazz. Et puis, il y a cet orchestre incroyable. Et là-dessus, il y a ce cantor qui est véritablement une star de toute une énorme partie de la communauté juive, qui est une des plus belles voix de cantor actuelle, Moshe Luk, qui sera là et qui va donc faire la deuxième partie de ce concert. C'est un moment unique, vraiment. On a beaucoup transpiré parce qu'on n'a pas l'habitude de faire et de recevoir des grands ensembles. C'est beaucoup de travail, c'est d'autres moyens, on va dire. Il faut une grande salle. Mais c'était important de le faire. C'est important, peut-être plus que jamais, d'avoir sur notre affiche, ne serait-ce que le mot Israël, c'est-à-dire on soutient la culture, la tradition, la force de création, ce pays qu'on aime, quel que soit son courant politique, et on n'est pas à cet endroit-là. Mais c'était important à un moment où les artistes israéliens sont littéralement boycottés ou ne sont pas invités, ou même les artistes juifs sont tus. On oublie juste de les inviter, hein. Il n'y a pas de grand manifeste, on oublie. C'était vraiment important pour moi de porter ce projet en France, de le réaliser. Et donc, pour moi et pour nous, parce qu'on est une équipe, évidemment, je ne suis pas seule. Moi, je fais la programmation, mais derrière, il y a tout le centre d'art et de culture et le travail ne se fait pas tout seul.
Alors, on va
il y a des il y a des fondations, j'y pense, que je remercie. Il y a des soutiens de fondations qui sont là depuis très longtemps. Je ne peux pas les citer toutes, donc j'en citerai aucune, mais qui sont vraiment avec nous et qui sont des fondations juives, des fondations de la région, la ville, enfin voilà. Donc, je les remercie. Le Fonds social, j'arrête là.
Mais on va revenir sur le sujet que vous avez abordé. On y reviendra un peu plus tard. On continue dans la programmation avec ce mélange des genres improbables, musique et danse autour de l'œuvre de Khalil Gibran, Lucien Zérad, Mohanad Al-Jahramani, j'espère que je prononce
vous
bien.
Vous le prononciez très bien.
La danseuse Gabrielle Weisbourg, là je suis plus familiarisée avec ça. Dialogue entre oud, guitare, danse, et ben c'est ça l'esprit du festival. C'est l'ouverture, la circulation, l'altérité, la place à l'autre. Et puis peut-être aussi l'aventure vers un début de paix ou d'espérance.
Ben, le calendrier, je n'ai qu'un souhait au cœur, c'est que ça continue et que ça s'installe que toute cette guerre s'arrête définitivement et que chacun trouve la paix dans son cœur et dans sa maison. Mais oui, c'était important. En fait, c'est pareil, ce projet est venu par l'artiste Lucien Zérad, qui est un très très grand guitariste, vraiment magnifique. Et quand il m'a envoyé, il y a plus de 8 mois maintenant, ce projet qui était tout nouveau, qui était en construction, qui avait... j'ai trouvé les premiers titres absolument magnifiques. Et ça faisait sens que ça se passe à Jazz and Klezmer. Je trouvais que c'était un joli message de paix, d'accueil de l'autre. C'est un Mohanad Al-Jahramani, vous l'avez bien dit, un très grand musicien qui n'a pas eu peur de jouer pour Jazz and Klezmer, il faut le noter aussi.
Oui.
Il a,
oui.
Bon, c'est un concert qui aura lieu le 8 novembre à l'Espace Rachi. Et c'est la première fois qu'on accueille de la danse et une danseuse. Donc vraiment, c'est pour nous aussi une belle première autour de cet artiste, Khalil Gibran, cet auteur qui avait, et dont on connaît beaucoup le prophète. On connaît moins le fou, mais, mm-hmm. mais oui, c'est ce dialogue, c'est un peu ce dialogue judéo-arabe qui devrait ne pas cesser, peut-être, et peut-être encore moins aujourd'hui.
Et qu'il faut poursuivre et qui démontre, oui, une nouvelle fois que finalement, Jazz and Klezmer, c'est comme un prétexte. Le fil rouge, c'est de peut-être... déjà, c'est guidé par ses coups de cœur, enfin
oui.
les vôtres,
oui.
et puis de rapprocher les musiques, les artistes.
Oui, oui, oui.
Alors, parlez-nous de ce klezmer dans les bars. De quoi s'agit-il ?
Eh bien oui, c'est aussi une idée. Je me suis dit, bon, alors on a fait le tour de la question du klezmer qui est allé vers du renouveau, des musiques actuelles, etc. Et si on revenait aux sources, c'est-à-dire que au tout début, dans les années 50, 60, 70, quand des artistes klezmer commençaient à réémerger, mais des artistes traditionnels, enfin je sais pas, l'époque de Talila et Benzimet, cette époque-là où on recommençait à entendre du klezmer en France, ça se jouait pas sur des salles de musique actuelles, ça se jouait dans des petits bars, des caves de musique, ça se jouait au Trois-Arts, ça se jouait à la Vieille Grille, des tas de salles comme ça qui maintenant ont disparu. Et donc je me suis dit, bah alors remettons ces artistes là où ça a démarré, dans des tout petits lieux, dans un rapport très intimiste. Alors mettons des artistes déjà bien reconnus dans ces petits endroits pour une quarantaine de personnes privilégiées et retrouvons cette chaleur et cette proximité que pouvaient avoir ces concerts à l'époque. Donc oui, ça fait pas. C'est dans un peu la même vague que les 20 ans du label Jumu. Il y a comme un peu un. C'est à la fois la liberté, à la fois le retour à quelque chose d'une. Oui, d'un début, d'une source. Voilà, ça, j'avais envie aussi de boucler la boucle, peut-être pour aller ailleurs l'an prochain, peut-être aller encore plus loin, je ne sais pas. Mais
alors, on va déjà ailleurs pendant ce festival.
Oui, on va ailleurs
avec,
déjà.
Avec eh bien, un groupe mutant, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est Otorino.
Ah oui.
C'est du rock yiddish, du rock klezmer. Donc, il a été révélé par John Zorn.
Oui.
Et c'est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc, un klezmer qui marie rock, improvisation, nouvelle texture... l'hybridité, enfin, comme le festival.
Rock alternatif, métal, limite métal, c'est vraiment la matière qui a séduit et fondé le label Tzadik de cet immense musicien et découvreur qui est John Zorn, qui, quand il vient en France, ne joue que à la Villette. Et une fois, il a joué au Musée d'art et histoire du judaïsme. Mais au Torino, c'est derrière ce projet, David Konopnicki, qui est un immense guitariste de guitare fretless. Donc, c'est sans les barres. C'est avoir cette espèce de fluidité, ce son qui glisse le long du manche. Et c'est donc quatre musiciens extraordinaires. C'est aussi leurs 15 ans. Donc il y a aussi là une date anniversaire, ils ont de nouveaux morceaux, ils vont rejouer d'anciens morceaux, des morceaux qui les ont fait émerger il y a une quinzaine d'années, et on est très heureux, oui, de les avoir. Ils ont joué, c'est pas les premiers concerts, mais parmi leurs premiers concerts, ils étaient à Jazz and Klezmer il y a une quinzaine d'années. Donc c'est presque une édition d'amis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les artistes m'appellent et me disent... Et c'est vraiment extraordinaire d'ailleurs d'être sollicité, c'est qu'on vient maintenant nous dire j'ai ça cette année, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, on a tellement envie de parler de toutes ces dates, mais c'est pas possible, l'émission serait beaucoup trop longue. Juste une dernière, le 23 novembre, à Nogent-sur-Marne, c'est Paris hors les murs.
Oui.
C'est un lieu que vous affectionnez aussi, et ce sera le Sirba Octet avec un hommage aux mémoires croisées, encore une fois, juives, arméniennes et tziganes. Donc toujours hein, dans la promesse de la fraternité.
Oui, c'était un choix tout à fait volontaire, puisque le Sirba Octet, qui est un groupe qui réunit des musiciens de l'Orchestre de Paris, donc ce sont des musiciens de musique classique, et mais d'une immense dextérité, d'une immense, ils sont volubiles, ils sont délicieux quand on les voit sur scène jouer les projets, donc autour de Richard Schmuckler, qui lui a fondé le Sierba Octet avec ses amis, donc musiciens de l'Orchestre de Paris. Il y avait plusieurs possibilités, plusieurs projets, et bah oui, j'ai eu envie de choisir celui-là, celui qui allait nous maintenir dans un dialogue avec l'autre, donc le Zusammen, qui veut dire en yiddish et en allemand ensemble, et qui va raconter le mariage des musiques arméniennes, des musiques balkanes, des musiques tziganes et des musiques klezmer, évidemment. Ça se passe au théâtre Antoine Watteau, qui est un lieu qu'on affectionne parce qu'on a une amie là-bas qui s'appelle Sylvia Usan, qui est la maison de la culture.
C'est incroyable. C'est une
maison de la culture
folle.
Yiddish que vous connaissez pour y intervenir très souvent.
Et oui.
Et donc elle est d'une énergie, d'une volonté, d'une joie, d'une vivacité. Et donc voilà, ça fait, je sais pas, peut-être pas encore tout à fait 10 ans, mais peut-être pas loin que tous les ans on donne ce concert à nos gens, et on réunit les publics parisiens et les publics nogentais, puisque c'est au pied de la sortie du RER E, pour ceux qui n'ont pas de voiture.
C'est très pratique, la maison de la culture juive, pour y accéder.
Et puis ceux qui ont une voiture viennent. Aujourd'hui, les gens de Paris vont à nos gens. Mmh. On a créé aussi ce pont. Voilà, donc oui, on est très heureux de clore le festival, et ça fait quand même quelques années maintenant qu'on fait le final du festival au théâtre Antoine Watteau chez Sylvia.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Laurence Aziza, qui nous parle de la 23e édition du festival Jazz and Klezmer. On l'a abordé il y a quelques instants, c'était impossible de ne pas le faire. Depuis le 7 octobre, Laurence, on aurait pu espérer que la sidération et la compassion fassent reculer l'antisémitisme face au massacre. Et c'est pourtant tout l'inverse qui a eu lieu. On a vu exploser les discours de haine et même des boycotts d'artistes juifs. Comment, en tant que directrice de festival, vous vivez cette situation? Et est-ce que cela vous a touché personnellement dans la programmation cette année, une fois encore?
Alors, ça m'a touché personnellement, ça c'est certain. Ça m'a touchée pour d'autres raisons, mais par exemple, je pense à une artiste qui a déjà joué à Jazz and Klezmer, et qui s'appelle Liraz, qui est une artiste israélienne de langue perse, farsi, et qui, là, tout dernièrement, a été annulée pour des raisons très floues, vraiment des prétextes, pour faire court, de FGO Barbara Goudor, qui a été récupéré par le Café de la Danse, et donc
la mobilisation a payé, oui, la pétition a circulé.
Oui, absolument. Et on l'a initié avec David Konopnicki, avec d'autres personnes. On était 4-5 à se dire, on peut pas laisser passer ça. Donc la mobilisation a eu lieu. Liraz a joué à Jazz and Klezmer. Elle a joué aussi en ouverture d'un autre festival que je dirige, et peut-être que je viendrai vous en parler. C'est le Sacré Sound Festival.
Avec plaisir.
Et où je pousse plus loin le curseur. Et là, c'est aussi par rapport au 7 octobre que j'ai tenu. Est-ce que cette ouverture de festival se passe avec ce projet autour du fou de Khalil Gibran? C'était une façon de dire, ici on résiste. C'était une façon de dire, on garde l'ouverture. On va pas jouer votre jeu d'exclure des artistes israéliens. D'abord, c'était très important d'avoir ce israéli, l'orchestre andalou d'Israël Ashdod. C'était pour nous vraiment, pour moi, marque de résistance. Ce que vous disiez, mais qui est le mot israéli sur l'affiche, c'était de dire, voilà, mais vous ne les ferez pas taire. Mm-hmm. Peut-être que vous ne les invitez pas, mais ils resteront nos invités et on soutiendra toujours cette scène.
Et concrètement, dans la programmation, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans certaines salles ou pour certains artistes à les faire venir? Est-ce qu'il y a des réticences que vous sentez?
On en a eu pour l'édition qui a suivi le 7 octobre, oui. On a eu des annulations, on a eu des salles qui ont exprimé leur peur et qui ont donc décliné l'accueil d'un artiste israélien, par exemple. Oui, ça s'est arrivé clairement, avec des mots d'excuses après, je dois dire. Oui. Je le dis parce que c'est pas toujours le cas.
Mm-hmm. Alors, d'après vous, la motivation, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'antisionisme qui se cache sous de l'antisémitisme ou l'inverse, ou simplement la peur de programmer un artiste israélien et qu'il y ait, je ne sais pas, du grabuge, des manifestations devant.
C'est plusieurs choses. Je ne suis pas certaine que ce soit de l'antisémitisme, parce que c'est par exemple des salles dans lesquelles on a beaucoup joué, on a toujours été accueillis, et beaucoup d'artistes, et juifs, et israéliens, se sont produits dans ces salles. Donc, mais il s'est quand même passé quelque chose qui a révélé une forme d'antisémitisme. Je n'irai pas jusque là, dans les cas qui nous concernent en tout cas. Il y a eu de la peur, clairement, je pense, évidemment. Et puis, il y a eu une petite... Oulala, on s'en mêle pas, on veut pas se prononcer sur le débat. Et qu'est-ce que ça va donner si on accueille un artiste israélien? Est-ce qu'on va penser qu'on est pro Netanyahou, pour faire court? Et c'est souvent ces raccourcis qui font que ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, qui est d'une complexité extrême, génère des actes antisémites par des raccourcis absurdes, génère des boycotts d'artistes israéliens pour des raccourcis aussi. Et le fait que le 7 octobre est rayé et masqué. Le 8 octobre, déjà, il y avait des critiques. Oui. C'est ahurissant. On sera plus jamais... Enfin, moi, j'ai l'impression, personnellement, qu'on sera plus jamais les mêmes et que la société sera plus tout à fait la même. Clairement.
Je partage votre avis. Et est-ce que vous pensez... Alors, il y a eu un cessez-le-feu, les otages vivants ont été libérés, on attend la fin de la restitution des otages morts. On sait bien qu'à Gaza, c'est encore compliqué pour la population gazaoui. Est-ce que vous sentez... Alors, il y a eu l'affaire Liraz, mais qu'on va, au moins dans le monde artistique, vers quelque chose de mieux. Je vais vous parler du milieu universitaire. Tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours. Donc, est-ce que dans le milieu artistique, on tend vers un mieux?
Je pense que c'est deux choses différentes. Le milieu universitaire, et je crois que c'est beaucoup plus compliqué pour le milieu. On pourrait en parler même hors micro, parce que c'est vraiment violent ce qui s'y passe. Quand on a affaire à des artistes musiciens qui n'ont pas la nécessité de réécrire l'histoire, ou qui ne réinventent pas des valeurs, qui sont malgré tout des gens qui, à un moment ou à un endroit, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui prônent le drapeau palestinien derrière eux et qui font de leur scène un discours politique, j'ose espérer que ça va pouvoir se remettre à dialoguer. J'ose espérer. C'est plus compliqué qu'il y a 3 ans. C'est clairement plus compliqué. Mais on n'en est pas là où en sont les universités, où je crois que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus radical.
Est-ce qu'à vos yeux, finalement, la musique, c'est le seul lieu possible de réconciliation, d'espérance, dans un climat qui est vraiment polarisé aujourd'hui ?
C'en est un. Ouais. C'est pas le seul. Il y a des lieux, je pense à un lieu en Israël d'ailleurs qui vit difficilement aujourd'hui, qui s'appelait Phil Beit, qui est une maison sur les collines de Jérusalem, qui met toujours en dialogue des artistes palestiniens et des artistes israéliens. C'est un lieu qui existe depuis très longtemps. Il y a des actions en Israël de paix, beaucoup. En France aussi, à vrai dire. La musique est un vecteur qui porte, puisque Il n'y a pas de langue particulière, il n'y a pas de frontière particulière. Et donc, bien sûr que ça va. Et puis, vous êtes juive française avec des origines de d'Europe de l'Est. Vous avez une langue qui est multiple, presque. Vous êtes plusieurs choses à la fois, moi aussi. Et donc, ce dialogue, on l'a en nous, quelque part. Je pense que la musique est un excellent vecteur, mais j'ose espérer que ce n'est pas le seul. L'art en est un, l'écriture. Et puis, il y en a d'autres, j'espère.
Gardons l'espoir. Alors, pour celles et ceux, on vous a entendu, on a vraiment envie d'assister à ces événements. Comment on découvre le programme complet? Toujours sur le site internet jazzandklezmer.fr?
Oui, auprès de nos partenaires, les radios, toutes les radios juives, le TSF Jazz qui nous soutient aussi et puis sur le site, sur les réseaux sociaux, bien sûr. On vous invite à liker notre Insta, et notre page Instagram et notre page Facebook, où toutes les informations seront annoncées, date par date. C'est vrai que c'est vivant, les réseaux, donc on annonce date par date. On va relayer des tas de jolies histoires, l'après-concert, l'avant-concert. Et le site jazzandklezmer.fr, il suffit de taper dans la barre de recherche. On tombe tout de suite sur le site.
Alors, c'est tout simple, hein, pour avoir la programmation. En revanche, c'est une question qui... devenu rituel, mais qui est quand même un peu compliqué. Si vous deviez convaincre, Laurence, en une ou deux phrases, les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom de participer, de venir au festival Jazz and Klezmer cette année, encore plus que les autres années, qu'est-ce que vous leur diriez ?
C'est retrouver un moment de vitalité, de vie et de paix et de joie.
Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, d'avoir accepté de partager avec nous l'esprit de cette 23e édition du festival Jazz and Klezmer à vivre du 8 au 23 novembre 2025 à Paris, en région parisienne et sur tout le territoire français. Et puis, on va se quitter en musique avec un extrait de The Dream d'Omer Avital et de l'Orchestre Andalou d'Israël qui démontre encore une fois que la musique, eh bien, c'est un espoir qui reste toujours très fort quand on n'a plus rien à attendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ce morceau ?
Ça s'appelle Dream. Son projet s'appelle d'ailleurs North African Dream. Donc c'est le rêve de l'Afrique du Nord. C'est lui aussi il porte ça, sa double voire triple. C'est un jazzman new-yorkais qui a appris tout à New York, qui est né en Israël, qui est marocain d'origine. Et donc c'est ça l'Afrique du Nord rêvée. Ce morceau cumule vraiment jazz et on entend cet orchestre énorme de 30 musiciens, des violons. On a le rythme arabo-andalou. C'est tout ça que porte ce titre et ce morceau qu'a composé Omer Avital pour l'orchestre andalou d'Israël Ashdod.
Eh bien, il ne reste plus qu'à écouter et je vous dis bonsoir et à très bientôt.
Merci Sandrine, à bientôt.